BriefMe, édition du 26 mars 2024.
Dans BriefMe aujourd'hui, les conséquences de l'important déficit public de la France, de l'IA pour compter les hérissons et d'improbables machines.
On rembobine.
Gaza. Le conflit s'est poursuivi aujourd'hui dans la bande de Gaza, malgré la résolution inédite adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Israël poursuivra et atteindra ses objectifs de guerre, a déclaré aujourd'hui le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
Cyberattaque. Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande ont accusé, hier soir et aujourd'hui, la Chine d'être derrière plusieurs importantes cyberattaques ces dernières années contre leurs institutions. Les communiqués mentionnent deux groupes de hackers affiliés ou soutenus par l'État chinois. Il s'agit d'une pure manipulation politique, a déclaré aujourd'hui un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.
WikiLeaks. La justice britannique a demandé aujourd'hui aux États-Unis de nouvelles garanties d'ici 3 semaines concernant le sort du lanceur d'alerte australien et fondateur de WikiLeaks Julian Assange en cas d'extradition. Les États-Unis ont demandé l'extradition de Julian Assange, incarcéré au Royaume-Uni depuis 2019, afin de le juger en raison de la publication de documents confidentiels à partir de 2010.
Cinéma. Le nombre de films français a augmenté en 2023 et retrouvé son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, selon le bilan publié hier soir par le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, un établissement public. Seuls 28,3% des films agréés l'an dernier ont été réalisés par des femmes, contre 30,7% en 2022. La part de films documentaires est à son plus bas niveau depuis 2014, tandis que le nombre de films d'animation atteint un niveau record.
Tout s'explique.
Le déficit public de la France grimpe à 5,5% du PIB.
Le gouvernement n'avait pas anticipé un tel niveau de déficit public.
S'endetter coûte plus cher qu'avant à la France.
Comment s'explique l'augmentation du déficit public ?
Le déficit public a fortement augmenté en 2023, atteignant 5,5% du PIB, la production totale de biens et services, a annoncé aujourd'hui l'Institut national de statistique INSEE. Le gouvernement avait prévu un déficit de 4,9%. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, chargé du contrôle de la dépense publique, a estimé ce matin sur France Inter que ce dérapage était important et très très rare. L'écart avec la prévision s'explique par une baisse très forte de nos recettes en fin d'année, a déclaré ce matin sur France 2 le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave. L'INSEE souligne le repli des droits de mutation, un prélèvement sur les transactions immobilières, qui accompagne le recul des transactions immobilières, moins 22,2% en 2023. Ce que nous avons peut-être sous-estimé, c'est qu'avec une inflation qui se réduit plus vite que prévu, cela entraîne des rentrées moins importantes, sur la TVA par exemple, a également expliqué ce matin le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur RTL.
Quelles en sont les conséquences ?
La dégradation du déficit public peut inciter les agences de notation à abaisser la note qu'elles attribuent à la France. L'agence Fitch l'a déjà révisée à la baisse en avril dernier. Une note dégradée peut accroître les taux d'intérêt auxquels l'État français emprunte. Avec un déficit public supérieur à 5% et une dette publique représentant 110% du PIB fin 2023, la France ne respecte pas les règles européennes, qui les plafonnent respectivement à 3% et 60% du PIB. Le pacte de stabilité, adopté par l'Union européenne en 1997, prévoit des sanctions financières pour les pays qui dépassent durablement ces seuils. Toutefois, celles-ci n'ont jamais été appliquées. En France, les déficits et la dette ont beaucoup augmenté depuis 4 ans à travers les différentes crises, mais la situation restait soutenable, car les taux d'intérêt étaient bas, observe l'économiste Mathieu Plane dans une interview à France Info aujourd'hui. On s'endettait beaucoup, mais ça ne coûtait rien. Or, aujourd'hui, le financement coûte plus cher, ajoute-il.
Comment le gouvernement compte-t-il répondre à cette situation ?
En plus des 10 milliards d'euros d'économies prévues par le gouvernement sur les dépenses de l'État pour 2024, le ministre délégué aux comptes publics a annoncé jeudi qu'en 2025 au moins 20 milliards d'euros supplémentaires devraient être économisés. Le gouvernement maintient pour l'heure son objectif d'abaisser le déficit public à 3% d'ici 2027. Cet objectif nécessite de réaliser sur ce laps de temps près de 50 milliards d'euros d'économies, évaluée mi-mars la Cour des comptes. Thomas Cazenave a déclaré qu'il fallait faire des efforts sur les dépenses et que les économies devaient être construites avec tous ceux qui sont concernés, soit l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. Bruno Le Maire s'est dit opposé à toute augmentation d'impôts.
C'est leur avis.
Trop concentré sur l'Occident, la Russie a oublié le terrorisme islamique.
Au lendemain de l'attentat revendiqué par le groupe État islamique qui a fait au moins 137 morts à Moscou vendredi, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que les auteurs se dirigeaient vers l'Ukraine. Selon le chercheur de l'Institut français des relations internationales Dimitri Minik, interviewé samedi dans Mediapart, le Kremlin a délaissé la menace terroriste pour celle d'un ennemi imaginaire.
Une des raisons qui explique l'incapacité de Moscou à empêcher cette tuerie est justement la concentration des services de renseignement sur l'Ukraine, l'Occident et les prétendus ennemis de l'intérieur. Je pense que depuis quelques années, les services de renseignement intérieur russes se sont davantage intéressés aux libéraux subversifs et pro-occidentaux qu'au terrorisme islamique. Moscou a la capacité de mener des opérations antiterroristes et d'empêcher des attentats. La question est, a-t-il envie de mener une guerre au terrorisme islamique ? Je ne suis pas sûr que le Kremlin veuille se disperser et prendre le risque de valider l'existence d'autres menaces que celles de l'Occident, à qui il essaie déjà, au contraire, d'attribuer une responsabilité dans cette tuerie. Moscou ne veut avoir qu'un réel ennemi, pourtant imaginaire, l'Occident. Dimitri Minik.
Ça alors.
L'IA utilisée pour suivre les hérissons au Royaume-Uni.
La British Hedgehog Preservation Society, BHPS, une organisation caritative britannique consacrée à la protection des hérissons, a lancé hier une vaste opération pour compter leur population, qui a connu un déclin considérable au cours des dernières décennies. Pour ce faire, la BHPS s'appuie sur l'intelligence artificielle qui va reconnaître les hérissons des autres animaux sur les images récoltées par des caméras placées sur l'ensemble du territoire britannique. Ces résultats seront ensuite analysés par des humains pour réaliser une cartographie de l'espèce. Avant de pouvoir mettre en place des mesures de conservation, nous devons comprendre où les hérissons se trouvent et pourquoi ils déclinent, a expliqué hier à la BBC Henrietta Pringle, coordinatrice du programme de sauvegarde des hérissons.
Ça vaut un clic.
Improbable machine.
À l'occasion des 50 ans de la carte à puce, hier, l'INA a ressorti de ses archives une rencontre télévisée avec l'ingénieur Roland Moreno, qui déposa le premier brevet sur le sujet le 25 mars 1974. En 1968, alors âgé de 23 ans, il présente un attirail d'inventions improbables et parfois inutiles comme la machine qui fait sauter des allumettes en l'air ou la machine à tirer à pile ou face.
Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à joindre l'inutile à l'agréable.
Cette édition a été réalisée par Nicolas Filiot, Laurent Mauriac, Séverine Mermillot et Marie-Lievine Michalik.